Nous sommes ravis de vous accueillir avec le général Gaspari, le secrétaire général de la Garde nationale. Mon général, j'ai envie de dire que là, on fait une petite surprise, puisqu'on va faire un épisode thématique sur l'armée de l'air.
Alors voilà, après avoir fait deux webinaires qui ont permis de camper le décor de ce qu'était la Garde nationale, ce qu'est la réserve, on a décidé de rentrer un petit peu plus dans la tôle avec l'armée de l'air et de l'espace. Et mon camarade Frédéric, avec ses deux réservistes, vont nous expliquer concrètement ce qu'est la réserve de l'armée de l'air, ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut y trouver, et comment est-ce qu'on peut faire pour devenir réserviste. Donc ça s'annonce passionnant déjà, et donc j'ai vraiment hâte qu'il prenne ma place et qu'il parle. Et qui répond aux questions.
Exactement, c'est une bonne introduction. Merci, mon général. On vous rappelle le concept du Direct Garde Nationale. On se retrouve une fois par mois pour traiter des sujets liés à la Garde Nationale aux réservistes. Et donc là, c'est le direct dédié aux réservistes de l'Armée de l'Air. Et donc, on va avoir le plaisir d'accueillir le général devant les, ainsi que deux réservistes de l'Armée de l'Air. Donc, ils vont venir s'installer à côté de moi, sous vos applaudissements, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Alors, vous êtes en train de nous suivre sur YouTube. Donc, vous avez un chat sur YouTube, que vous soyez sur mobile ou sur desktop. Donc, posez vos questions en direct pendant nos conversations et on va les traiter également au fil de l'eau pendant ce direct. Pour ceux qui nous suivent depuis le premier épisode, maintenant, vous avez l'habitude, on répond à tout. Et d'ailleurs, je vais commencer, la parole donc, au général Devanley qui va se présenter, puisque en introduction, enfin en préparation de ce direct, il nous a dit « mais nous, on est prêt à répondre à tout », n'est-ce pas, mon général ?
Exactement, c'est bien ce que j'ai dit. Alors, si je devais me présenter en quelques mots, je suis le général de brigade aérienne Frédéric Devanley. J'ai la chance d'être le sous-directeur recrutement, réserve et jeunesse au sein de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace. Donc, trois domaines importants, mais trois domaines qui sont finalement très liés. Pourquoi ? Parce que la jeunesse est au cœur des armées. La jeunesse est aussi au cœur des activités de la réserve, puisque nombreux sont les réservistes au sein de l'armée de l'air et de l'espace qui œuvrent pour mettre en place les actions envers la jeunesse. Et enfin, le recrutement, parce que l'ensemble de ces thématiques, c'est aussi pour assurer à l'armée de l'air et de l'espace la ressource humaine dont elle a besoin pour mener à bien toutes les opérations qui lui sont confiées dans tous les temps, temps de paix, temps de crise, pour pouvoir protéger la France et ses intérêts, qu'ils soient en métropole ou partout dans le monde.
Bon, mais merci, mon général. En plus, je vois que vous êtes venu accompagner donc, de deux réservistes de l'armée de l'air. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et peut-être leur céder la parole ensuite ?
Bah, écoutez, je vais les présenter rapidement. J'ai à ma gauche la sous-lieutenant Marie et puis le sergent Karim. Je pense que qui mieux qu'eux peuvent se présenter leur parcours, pourquoi ils nous ont rejoints, pourquoi l'armée de l'air et de l'espace, et puis ce qu'ils y font.
Bah très bien, on peut peut-être au sous-lieutenant Marie, allez-y, c'est votre moment.
Et ben, je démarre. Donc là, du coup, moi, ça fait 2 ans que je suis dans la réserve opérationnelle au sein de l'armée de l'air. Donc j'ai suivi ce qu'on appelle une FMIR HN, c'est-à-dire une formation militaire dite haut niveau, donc qui s'adresse à des candidats qui ont des formations Bac plus 5 et qui ont, si possible, une expérience professionnelle déjà dans le civil. Pour ma part, ça fait déjà 15 ans que je travaille. Je travaille chez L'Oréal en logistique et je suis coordinatrice de projet. Et donc, j'opère des actions similaires au sein de l'armée de l'air et de l'espace.
Très bien, merci. C'était très clair. Et peut-être, sergent Karim, dans la continuité.
Alors, très bien. Donc, sergent Karim, donc je sers au CIRA de Villacoublay, donc sur la base AN 107 depuis 2019. Donc, j'ai fait un parcours FMIR classique. Donc ça veut dire que vous commencez par une PMI-PDN, donc une préparation militaire initiale et de perfectionnement à la Défense nationale. À la suite, j'ai continué donc sur une FMIR, formation militaire initiale du réserviste. J'ai ensuite fait une période d'intégration en unité, donc un stage de 20 jours, et j'ai intégré par la suite le CIRA de Villacoublay. Donc je m'occupe du recrutement des réservistes en local sur la base aérienne 107. Et dans le civil, je suis donc actuellement en reconversion professionnelle, en cybersécurité. Voilà.
Je vais rajouter quelques petites explications. Ce qui est intéressant au travers des deux profils que vous avez devant vous, c'est d'abord, ce sont des recrutements de réservistes ab initio, c'est-à-dire que ni l'une ni l'autre n'ont été militaires dans une première partie de vie et ont rejoint la réserve au travers d'une séquence post-institution. Donc c'est important, c'est déjà de montrer que nous avons des jeunes réservistes au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Et vous avez deux parcours différents. Marie a parlé de FMIR-HN, donc formation militaire initiale du réserviste haut niveau. Comme elle l'a très bien expliqué, ça s'adresse à une population Bac plus 5, premier emploi entre 26 et 40 ans. C'est aussi pour alimenter un recrutement, j'allais dire, d'officiers qui peut servir directement en unité, comme Marie l'a expliqué. Elle est ce qu'on appelle un complément individuel, complètement intégré au sein de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, et elle travaille sur des projets au même titre que ceux qu'elle fait dans son emploi quotidien. Donc c'est un vrai échange qui nourrit à la fois l'armée de l'air, mais je pense aussi son entreprise. Elle pourra en parler et dévoiler un petit peu les intérêts et ce qu'elle fait. Quant au sergent Karim, c'est typique d'une formation militaire initiale de réserviste, j'allais dire ouverte à toutes et tous, et qui permet ensuite de pouvoir progresser au sein de l'institution armée de l'air. Il a pu accéder ensuite au corps des sous-officiers. Il pourra demain, ou un camarade à lui pourra demain accéder sur la voie aussi officier, rejoindre le même principe que Marie, parce qu'on met en place des séquences modulaires et on permet à tous de pouvoir s'exprimer et de pouvoir s'éclater, si je peux employer le terme, au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Il a parlé de CIRA. Le CIRA, c'est le centre d'information et d'instruction des réserves de l'armée de l'air et de l'espace. C'est donc le lieu où le jeune ou la jeune réserviste qui rentre dans l'armée de l'air va faire ses premières armes, apprendre, j'allais dire, le béaba de la militarité, et après pouvoir, dans un second temps, comme il l'a expliqué, rejoindre en unité pour aller occuper des fonctions qui peuvent être très diverses, pro-def, etc., des unités aussi intégrées. Ce qui est important de retenir dans l'emploi de la réserve dans l'armée de l'air et de l'espace, c'est qu'elle est intégrée à la mission quotidienne des aviateurs d'active. Et ça, c'est important de se dire, je participe en tant que réserviste à la mission et au contrat opérationnel de l'armée de l'air et de l'espace. Parce que je suis dedans. Je suis dedans. J'ai une phrase importante, c'est que pour moi, un réserviste est un militaire à temps partiel. Et chaque terme est important. Militaire, ça veut dire qu'il est... Il est vraiment avec nous, et à temps partiel, parce qu'il a un dimensionnement temporel qui est différent du militaire d'active. Mais ils sont ensemble, ils sont intégrés, et ça lui donne beaucoup de poids, et ça le rend important au sein de son unité.
Écoutez, merci à tous les trois. Bon, on vous avait dit qu'on allait tout dire aujourd'hui, donc on va essayer de tout décortiquer. On va déjà revenir, on va prendre un peu de hauteur sur donc les réservistes au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Alors, combien sont-ils? Quelles sont leurs missions? Et peut-être aussi, quels sont les profils que vous recherchez? Parce que là, on a deux exemples, et bien sûr, on va revenir sur votre parcours et vos témoignages. Mais aujourd'hui, vous recrutez des réservistes. Quel type de réservistes?
Alors, les effectifs. Alors, globalement, aujourd'hui, on est sur 5100 réservistes sous contrat au sein de l'armée de l'air.
Parfait.
Le doublement des réserves, un objectif 11 300.
Horizon 10 ans.
Horizon 2030. Effectivement,
d'accord.
Horizon 2030. Répartition, comme l'active, dans la réserve, on a une répartition homme-femme qui est à peu près équivalent, avec près d'un quart des réservistes de l'armée de l'air et de l'espace qui sont de sexe féminin.
Très bien.
C'est important. C'est important de le dire. C'est important parce que ça veut dire que au travers des deux témoignages, il y a vraiment de la place pour tous, comme je disais, et toutes. Ensuite, quels sont les profils que l'on recrute? Eh bien, c'est simple. Tout le monde.
Ah,
tout le monde. Moi, je n'ai qu'un leitmotiv, c'est la bonne volonté et l'envie. L'envie de nous rejoindre, ça, c'est important. Après, en fonction des profils de chacun, en fonction des aspirations, après un premier passage de militarité, de formation militaire initiale, parce que, comme je le rappelle, le réserviste est un militaire à temps partiel, donc il est important d'avoir ce premier socle, c'est de dire, ben, qu'avez-vous envie de faire? Quelle unité rejoindre? Où ça pourrait matcher, de manière que chacun y trouve son compte, c'est-à-dire l'unité qui accueille le ou la réserviste, et le ou la réserviste qui a envie de venir, ce qu'il a envie de faire. On peut très bien, comme Marie, avoir un emploi et mettre ses compétences d'emploi au sein de l'armée de l'air et de l'espace, ou, comme Karim, avoir un emploi et pour autant faire quelque chose de différent au sein de l'armée de l'air et de l'espace, parce que j'ai envie, dans mes week-ends, dans mes vacances, dans les jours de réserve, de faire autre chose.
Donc, le premier des critères, c'est peut-être être majeur, c'est ça, hein, c'est 18 ans.
Alors, La PMI, comme l'expliquait, la préparation militaire initiale à partir de 17 ans. Et après, c'est plus facile une fois qu'on est majeur, oui, pour faire la formation militaire initiale de réserviste. Parce que derrière, on n'a pas les contraintes de, d'autorisation parentale, etc. Et puis, on peut suivre sa formation militaire initiale, tir, combat, etc. pour apprendre les rudiments du soldat.
Donc, préparation militaire, en fait, ça ne donne pas forcément derrière un parcours de réserviste. C'est peut-être pour découvrir l'armée et le monde militaire. Donc, on peut faire à 17 ans. Par contre, la formation initiale du réserviste, ben, par définition, c'est pour derrière être réserviste. C'est ce que vous avez fait tous les deux. Alors, différente, on a bien compris. Hein. Une plutôt parcours officier et ensuite, on va dire, une FMIR classique, hein, c'est ça?
C'est ça, oui. Alors, c'est une FMIR classique, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde, donc tout diplôme, que vous ayez pas de diplôme du tout ou un bac plus 5. Elle est ouverte à tous et à l'issue, vous avez la possibilité d'intégrer n'importe quel type d'unité en fonction des besoins de l'institution. Donc me concernant, donc j'ai été, comme je l'ai expliqué juste avant, donc j'ai fait un stage d'intégration en unité. J'ai eu une opportunité de pouvoir servir au sein du CIRA de Villacoublay pour faire du recrutement de réservistes justement. J'ai saisi l'opportunité, étant donné que c'était un poste d'officier, donc... À l'issue de ma première année de contrat de réserviste, j'ai été intégré en tant que sous-officier, puisque pour être sous-officier, il faut avoir minimum le bac. Donc, comme j'ai le bac, j'ai pu être intégré au sein du CIRA en tant que sous-officier. Et à l'issue, donc, j'ai commencé à faire le travail que j'effectue actuellement au sein du CIRA, qui est le recrutement. D'ailleurs, j'ai la possibilité, même si vous êtes dans un bureau ou un travail plutôt administratif, vous avez la possibilité aussi de faire des missions opérationnelles ou des missions, des opérations qu'on appelle intérieures, type sentinelle, ce que je ferai d'ailleurs cet été, avec un stage griffon que je vais devoir valider pour pouvoir faire sentinelle cet été. Donc j'ai 2 semaines de formation à griffon sur la base d'Orange. J'espère pouvoir valider cette formation pour pouvoir servir sur le terrain aussi.
Alors, on va en parler parce que c'est effectivement formation griffon. Là, on voit pas trop ce que c'est, mais on se garde un petit peu quand même, oui, les biscuits, hein, pour la suite de notre direct. Mais revenons sur la FMIR, donc cette formation initiale. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette formation initiale? Alors, Sergent Karim, pour continuer, donc c'est quoi? C'est formation au tir. Qu'est-ce que c'est?
Alors, la formation militaire initiale du réserviste, c'est à l'issue de la PMI-PDN, donc il faut valider d'abord la préparation militaire. À l'issue, vous avez l'AFMIR. Durant l'AFMIR, vous faites du tir, de la topographie, vous apprenez les bases de ce qu'est un militaire, comment fonctionne une base aérienne, vous apprenez l'ordre serré. Donc l'ordre serré, c'est de la marche au pas, c'est comment on fait un quart de tour à droite, comment on fait un quart de tour à gauche. Vous apprenez à vous présenter à des autorités. Et voilà.
C'est les fondamentaux du soldat.
C'est les fondamentaux du soldat, exactement. Et puis, vous avez aussi un peu de préparation physique, hein, puisque étant militaire, vous êtes forcément amené à faire des activités physiques de temps à autre. Donc, vous avez aussi un peu de sport et des activités comme ça qu'on appelle du tueur, par exemple. Tueur, c'est technique d'intervention opérationnelle rapprochée, si je ne me trompe pas, en général. Voilà, vous avez ça.
Donc, c'est un peu de corps à corps.
Un peu de corps à corps, voilà.
Les basiques de corps à corps.
Ok. Exactement.
Et justement, donc, lors du précédent direct, on avait eu beaucoup de questions sur le niveau de sport exigé ou requis pour pouvoir suivre ces formations militaires. Bon, mais vous deux qui l'avez suivi, voilà, c'est quoi le niveau moyen en sport pour pouvoir suivre une formation initiale de réserviste?
Disons que si vous savez courir 8 km sans cracher vos poumons, ça devrait passer. C'est pas...
Je dirais que c'est à peu près la même chose, voilà, sur la partie FMIR à chaîne. Par rapport à ce qu'a expliqué le sergent Karim, on a grosso modo les mêmes activités, mais dans le premier module de la FMIR à chaîne, qui dure 12 jours, on intègre dans un premier temps des premiers actes décisionnels, des premiers actes de commandement. Et ensuite, on va aller faire un second stage à Salon de Provence, qui va durer une semaine, où là, on va vraiment aller sur de l'acte de commandement. On est vraiment entre nous sur de la partie haut niveau, où on travaille ces thématiques-là. Pour la partie sportive, je rejoins le sergent Karim. Pour ma part, je fais de la course à pied. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, ça permettait d'avoir un petit fond physique pour être un peu plus à l'aise, effectivement, dans ce qui va toucher à de la topographie, des courses d'orientation. Voilà, être un peu en forme aussi, voilà, quand on fait du tior ou quand on va aller faire d'armes, de fusils d'assaut, quand on va se former au tir. Ben voilà, ça permet d'être un petit peu plus à l'aise, en fait, dans l'exécution opérationnelle. Voilà, je dirais que pour ma part, j'ai plus 20 ans, hein, j'en ai 38, mais bon, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de difficultés physiques particulières. Ça reste accessible.
Voilà, c'est ce que je voulais dire, ça reste accessible. On n'enrôle pas des champions olympiques. On n'enrôle pas des commandos d'intervention.
Alors, en général, je vous coupe, mais nous avons des champions olympiques qui sont réservistes.
Oui, je veux dire, c'est champion olympique de course à pied ou de boxe, ou etc. Ce que je veux dire, que les choses sont progressives. Donc, on essaye aussi d'être, d'amener à niveau nos candidats. Ce qui est intéressant, ce qui a été dit aussi par la sous-lieutenant Marie, c'est qu'elle a parlé de différents stages. Donc, il y a une sorte de modularité. Ça veut dire qu'on ne demande pas dès la première année d'être disponible 6 mois de l'année pour être préparé, parce qu'on va moduler sur une première année avec une finir à chaîne sur 12 jours, on va dire, allez, 2 semaines. Et puis après, il y a un stage complémentaire à Salon de Provence. Pourquoi Salon de Provence? Parce que Salon de Provence, c'est l'école de l'air et de l'espace. C'est donc la maison mère des officiers. Et donc, les officiers de réserve, on tient aussi ce qui se passe à Salon de Provence. C'est aussi une reconnaissance pour eux de passer à la maison mère. C'est une garantie d'intégration. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des militaires de l'armée de l'air et de l'espace à temps partiel, mais ils font partie de la famille armée de l'air et de l'espace. Et donc, c'est important de les faire passer par les mêmes circuits. La deuxième chose, c'est que cette modularité, elle permet d'abord d'organiser son emploi du temps. Parce que comme il a été dit, ils ont une vie professionnelle et personnelle à côté. Et donc, c'est à tout à leur honneur de pouvoir dégager du temps pour pouvoir venir nous rejoindre faire de la réserve. C'est pour retenir aussi ce principe-là, qui est nous qui sommes d'actifs, on se consacre à l'armée de l'air et de l'espace. Eux, ils se consacrent à leur entreprise et ils viennent donner aussi sur leur temps libre à l'armée de l'air et de l'espace. Et ensuite, cette modularité et progression, parce que l'idée, c'est d'abord de les amener à un très bon niveau, hein, et demain de les faire progresser. Marie est sous-lieutenant, elle sera promue lieutenant et capitaine, hein, au travers de son activité et au travers aussi de sa progression militaire qui va lui permettre de lui amener des éléments nouveaux. Il n'y a pas de redondance. Il y a de la progression et de la progressivité. Et ça, c'est important. C'est pareil pour le sergent Karim. Il a fait sa formation militaire initiale du réserviste. Et il a fait une formation complémentaire pour pouvoir accéder au rôle de sous-officier et participer à l'encadrement, comme il l'a dit, au sein du CIRA. Parce qu'il peut être amené à faire des tâches administratives, mais aussi des tâches d'encadrement et aussi de retransmettre. Puisque, comme je l'ai dit, le centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée de l'air et de l'espace participe à la formation donc des plus jeunes. Donc, il participe à cette formation-là. Il vous a dit aussi qu'il allait être projeté et donc assurer des fonctions de réserviste en opération intérieure. Je sais si vous voulez en reparler.
Mais allons-y.
Mais juste pour vous souvenir, rappelez-vous, il y a quelques années, à Orly,
oui,
hein, la neutralisation d'un terroriste a été faite par un réserviste de l'armée de l'air et de l'espace. Ça veut dire que, globalement, quand je parlais d'intégration, ils sont dedans, ils sont au bon niveau pour prendre la bonne décision et réaliser les actes élémentaires nécessaires pour neutraliser un terroriste. Ça veut dire qu'on les amène en quelques jours, quelques semaines, à un niveau de performance qui est quand même intéressant. Ça veut dire que cette intégration, elle est là. Et la reconnaissance, c'est une reconnaissance pour eux de dire « je suis capable de faire ce que l'on attend de moi » au même niveau que quelqu'un d'actif qui est mon binôme. Et je pense que ça, c'est très intéressant en termes de reconnaissance.
Alors justement, peut-être parlons des missions. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des missions spécifiques aux réservistes de l'armée de l'air? Est-ce qu'il y a des missions spécifiques à l'armée de l'air? Donc là, on voit Vigipirate, mais Vigipirate, c'est interarmé. On a entendu le mot de Griffon. Alors qu'est-ce que c'est peut-être, sergent Karim, Griffon?
Alors Griffon, c'est un module qui se passe sur la base d'Orange, donc encadré par les commandos de l'air. Donc ça permet justement de pouvoir intégrer un détachement Sentinelle. Donc Stal Griffon, c'est on vous apprend hein, qu'est-ce que c'est la légitime défense, comment vous devez intervenir en cas d'incident type terroriste.
Donc voilà.
C'est une formation spécifique.
Faire des missions Vigipirate.
C'est une formation qui n'est pas propre aux réservistes, hein, c'est une formation qui est propre à tout militaire de l'armée de l'air et de l'espace.
D'accord.
Qui va être envoyé dans les 6 mois à venir dans le cadre d'une projection Sentinelle.
Très bien.
Donc c'est un module de préparation à la projection opérationnelle.
Parfait. Très clair. Donc on a Vigipirate comme mission. Peut-être mon général ou peut-être le sous-lieutenant Marie. Est-ce qu'on a des exemples de missions qu'on confie à des réservistes de l'armée de l'air qui pourraient permettre à, à nos spectateurs de se projeter, de se dire, bah, tiens, si je suis réserviste de l'armée de l'air, qu'est-ce que je pourrais être amené à faire?
Comme je disais tout à l'heure, nos réservistes sont très intégrés au sein des unités de l'armée de l'air. Et donc, ils peuvent être amenés à participer à toutes les missions. Que ce soit les missions de permanence, protection du territoire, qu'ils soient au sol ou en l'air, hein, que ce soit des missions en opération extérieure, on a aujourd'hui des réservistes de l'armée de l'air qui ne sont pas forcément d'anciens militaires. Parce que je vais ouvrir une petite parenthèse. On a deux types de réservistes dans l'armée de l'air et de l'espace. Comme dans les autres armées, on a des ab initio comme nos deux témoins, et puis on a aussi d'anciens militaires qui ont quitté l'institution et qui ont un passé intéressant et qui sont utilisables une fois qu'ils ont quitté l'institution et qu'ils reviennent par le biais de la réserve en souscrivant un engagement à servir dans la réserve. Nous avons aujourd'hui des réservistes de l'armée de l'air et de l'espace en opération extérieure et qui sont aussi des militaires ab initio. C'est-à-dire qu'on fait... On découvre l'armée de l'air en venant au travers d'une FMIR ou dans le travers d'un autre module qui existait auparavant qu'on travaille sur ces modules-là, hein, qui ont un peu plus d'ancienneté. Donc, je veux dire, ils sont intégrés et ils peuvent participer à toutes les missions. Il y a eu l'exercice Orion qui s'est terminé, je crois, le week-end dernier. Il y avait des réservistes dans tous les entités, dans toutes les spécialités de l'armée de l'air et de l'espace qui ont participé à cet exercice. Demain, sans dévoiler de grands secrets, le 14 juillet, les bulles de protection sur Paris, etc., au sein des entités qui sont déployées, il y a des réservistes de l'armée de l'air et de l'espace. Après-demain, la Coupe du Monde de rugby et les JOP les Paralympiques aussi 2024, nous aurons des réservistes de l'armée de l'air et de l'espace engagés et entraînés pour pouvoir être projetés sur ces différentes missions.
Donc, mon général, en fait, il n'y a pas de mission pour les réservistes de l'armée de l'air et de l'espace. Il y a des missions de l'armée de l'air et de l'espace auxquelles participent pleinement les réservistes. Ils sont intégrés au sein des activités de l'armée de l'air.
C'est exactement ça. Ils participent quotidiennement à la réalisation des contrats opérationnels confiés à l'armée de l'air et de l'espace.
Parfait, merci. Alors, on va commencer à prendre vos questions. Il y a pas mal de questions. Donc, merci. En plus, vous répondez entre vous. Vous êtes formidables. Donc, on a une première question qui est pour la sous-lieutenant Marie. Donc, si on a bien compris, vous avez la même fonction dans la réserve que celle que vous avez dans le monde civil. Pourquoi? Parce qu'on venait venir vous chercher sur une spécialité, c'est parce que vous avez une compétence dite rare dans le civil qui intéresse l'armée de l'air, c'est ça?
Alors, sur la partie haut niveau, c'est, j'ai envie de dire, un petit peu plus le principe, c'est-à-dire qu'on vient capter des compétences ou une expertise particulière présente dans le civil pour venir alimenter des unités au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Pour ma part, je fais de la gestion de projet donc chez L'Oréal, en logistique, 15 ans d'expérience dans la logistique, aussi bien, j'ai envie de dire, opérationnelle que sur de la gestion de projet. Et on est venu me chercher pour ces compétences-là. Mon profil a attiré l'œil pour ces raisons. Donc, j'ai passé un entretien. Donc, pour ma part, je suis affectée à l'état-major de l'armée de l'air sur l'emprise de Ballard au sein du bureau appui à l'activité. Donc là, on est vraiment sur une unité qui vient en support de l'ensemble de l'armée de l'air et de l'espace et vient épauler sur différents domaines les emprises de l'armée de l'air et de l'espace. Donc là, on est venu me recruter pour ces compétences et cette expertise-là.
Alors, quand on est venu vous recruter, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a quand même une démarche de candidature de votre part? Est-ce que vous vous êtes dit, bah, tiens, j'ai envie de rejoindre la réserve de l'armée de l'air? Ou alors, vous avez été contacté pour dire, bonjour, vous nous intéressez, rejoignez la réserve?
Alors, c'est plutôt moi, dans un premier temps, qui est postulé pour rentrer dans la réserve opérationnelle. J'avais envie d'un engagement fort et prégnant. Donc là, j'ai postulé au départ sur le site de la Garde nationale, qui m'a redirigé vers le site ROC, donc de la réserve opérationnelle. C'est comme ça que voilà, ben je me suis inscrite, on m'a appelée, on m'a contactée. Le CIRA est revenu vers moi après analyse de ma candidature en disant « Oh, ben, y a peut-être un poste à l'état-major qui pourrait répondre à vos compétences et on aurait besoin de cette expertise-là ». Du coup, j'ai passé un entretien avec mes supérieurs hiérarchiques aujourd'hui de l'état-major. Ça s'est très bien passé, ma candidature a été validée et c'est à cette issue-là que j'ai pu participer au FMIR à Chênes et aux deux modules de formation, donc à Bordeaux pour le premier et puis à Salon de Provence pour le second. Mais donc du coup, c'est ces compétences-là qu'on est venu chercher. Et aujourd'hui, quand je vais en réserve à l'état-major, pour ma part, j'y vais une journée par semaine en moyenne, après en fonction de ma charge opérationnelle dans le civil. Du coup, j'interviens typiquement en ce moment sur des projets d'innovation pour l'armée de l'air et de l'espace, mais aussi sur des projets transverses aux différentes armées. Donc là, je viens vraiment en soutien de mon unité où j'apporte voilà de l'expertise, du soutien aussi en termes de charges. Je vais venir synthétiser les besoins des différentes emprises pour remonter ces projets d'innovation au bon niveau hiérarchique au sein de l'état-major pour qu'on puisse faire avancer ces projets et puis que certaines innovations voient le jour au sein de l'armée de l'air.
Deux choses qui sont intéressantes dans ce que dit Marie. La sous-lieutenant Marie. Un, tous les chemins mènent à ROC. ROC, réserviste opérationnel connecté, c'est le chemin pour se projeter et pour se candidater dans la réserve pour l'armée de l'air et de l'espace.
En général, on le refait parce que, alors, on l'avait préparé, on tient à vous dire, on l'avait préparé, on savait que tous les chemins mènent à ROC allaient sortir, c'est sorti maintenant. Donc, ROC, c'est
réserviste opérationnel connecté, c'est le site sur lequel. Tous les candidats doivent venir se porter pour annoncer leur candidature en vue de rejoindre l'armée de l'air et de l'espace, mais aussi les autres armées. Aujourd'hui, on monte en puissance sur ce site, sur ce logiciel, sur ce process, de manière à le rendre le plus fort possible et qui nous permette, dans le cadre du doublement des réserves, d'être très opérationnel pour pouvoir prendre vos candidatures.
Ça, donc, c'est... si on reprend étape par étape, donc. Aujourd'hui, je ne suis pas réserviste. Je souhaite devenir réserviste donc de l'armée de l'air et de l'espace. Je passe par le portail
ROC. Candidature. Je veux devenir réserviste opérationnel.
Parfait. J'envoie un CV. Comment ça se passe?
Il va y avoir un process de recrutement qui se met en place. On est en train de l'améliorer avec les équipes ROC de manière à le rendre plus fluide, etc. C'est une V1 qui est en train de se travailler sur V2. Mais voilà, c'est cet échange-là de process. Des offres d'emploi, mais même s'il n'y a pas d'offres d'emploi, postuler et rentrer en contact de manière à dire, ben voilà, moi je suis intéressé. Moi, ce qui m'intéresse dans le recrutement et dans les candidats, c'est d'avoir envie de nous rejoindre. Et après, en fonction des différents profils, on trouvera toujours des postes qui correspondront. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans ce qu'a dit la lieutenant Marie, c'est que elle est à un niveau d'emploi à l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, et pourtant elle n'est que sous-lieutenant. Elle n'est que sous-lieutenant. Pour autant, c'est pas le grade qu'on regarde, c'est la compétence. On a une notion très importante dans l'armée de l'air et de l'espace, c'est la compétence prime sur le grade. La fonction prime sur le grade. Et donc elle est jeune officier, mais pour autant on reconnaît ses compétences et au travers de ses compétences, lorsqu'elle parle ou qu'elle explique ou qu'elle conseille, elle est prise en tant que tel. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Voilà.
Alors, ça tombe bien parce que justement, on vient de répondre donc aux questions, notamment de Morgane, qui nous demande sur le chat. Je souhaite devenir réserviste opérationnel, si possible, dans l'informatique, dans l'armée de l'air et de l'espace. C'est précis. Quelle est la procédure au niveau de la candidature?
La même chose ROC, que je viens d'expliquer.
Tous les chemins mènent à ROC.
Exactement. Voilà. Et ensuite, dans l'informatique, il y aura de quoi l'employer. Ce sont des domaines aussi, on a besoin de spécialistes.
On a Constantin aussi qui nous dit, quels sont les postes disponibles pour un ingénieur spécialisé en logiciel électronique au sein de l'armée de l'air en tant que réserviste?
Pareil,
comme pour Morgane.
Alors, je vais rajouter, on a parlé de recrutement ab initio, il y a aussi un recrutement un peu particulier qui s'appelle le recrutement de réserviste spécialiste. Donc là, c'est des champs de recrutement un petit peu différents, pour des personnes plus âgées, avec des technicités qui nous intéressent. Et donc, comme on dit, recrutement spécialiste, c'est-à-dire que c'est un peu un recrutement sur étagère. Et en fonction des emplois déjà tenus, de la technicité, de l'âge, du parcours universitaire ou professionnel, on va recruter un grade différent.
Mais c'est particulier, on va dire.
C'est un recrutement qui est particulier, mais il faut l'avoir en tête parce que c'est un recrutement spécialiste. Et quand on est dans du domaine spécialisé, c'est intéressant. Et donc, on peut être recruté directement, capitaine ou commandant. La seule différence par rapport à un parcours comme la sous-lieutenant Marie, c'est que c'est un recrutement à un grade un peu figé. Alors que la sous-lieutenant Marie va pouvoir faire un parcours complet si elle continue à être active dans la réserve, si je peux employer ce terme, et donc progresser et être amenée à, pourquoi pas, avoir des postes de commandement au sein de la réserve demain dans un parcours complet.
Voilà. Alors, on a toujours Constantin qui nous demande, est-ce qu'il existe des possibilités pour intégrer l'école de l'armée de l'air en tant que réserviste ?
Alors, l'école de l'armée de l'air, c'est les écoles de l'armée de l'air de réservistes, ou être réserviste dans une école de l'armée de l'air, ça serait bien que Constantin précise ce qu'il veut expliquer, intégrer l'école de l'armée de l'air. On a des réservistes à l'école de l'air et de l'espace, au même titre que toute unité de l'armée de l'air et de l'espace a des réservistes. Donc, il peut y avoir au sein des écoles de l'armée de l'air des réservistes qui viennent temporairement, militaires à temps partiel, renforcer les structures des écoles. Si c'est la réponse.
Alors, Constantin, on espère que vous nous écoutez toujours. N'hésitez pas à compléter votre question sur le chat. Merci. On a également donc Joseph qui répond à pas mal de questions. Merci beaucoup, Joseph. Et puis en plus, on a également le compte donc de recrutement des réserves de l'armée de l'air qui répond aussi. Donc
qui est prêt aussi à répondre.
On est bien. Voilà.
Vous avez
bien préparé. Donc Constantin nous dit oui, c'est être réserviste dans l'école de l'air.
Alors, il y a forcément, comme toute unité, des postes de réserviste ou des possibilités d'être employé comme réserviste au sein de l'école de l'air et de l'espace à Salon-de-Provence.
Voilà, comme dans n'importe quelle unité finalement de l'armée de l'air.
Exactement, exactement.
Parfait, on a également donc Johan qui nous parle donc des potentiels conflits d'agenda, de disponibilité entre son activité professionnelle, civile, et donc ses périodes de réserve. Alors peut-être, ça serait bien d'avoir vos témoignages. Est-ce que vous êtes capable de nous dire, peut-être par an, combien vous faites de jours de réserve ? Peut-être Jean Karim.
Alors, c'est assez variable en fonction des profils. Alors, me concernant, actuellement, je suis en reconversion professionnelle, donc j'ai pas mal de temps pour faire de la réserve.
Vous êtes
assez disponible. mais avant cela, j'étais fonctionnaire à la préfecture de police. Donc, en tant que fonctionnaire, on a des jours de réserve que l'on peut poser pour effectuer des missions de réserviste. Donc, de mémoire, c'est 30 par an, il me semble. Dans le privé, ça va dépendre de votre employeur, puisque vous avez certains employeurs qui ont signé des conventions avec le ministère, et dans ce cas-là, c'est en fonction du nombre de jours qui sont donnés par l'employeur au ministère, pour justement que le salarié de l'employeur en question puisse effectuer des jours de mission. Après, plus généralement, je crois que c'est 8 jours par an, il me semble, dans les entreprises de plus de 250 salariés. Il me semble que ça a été mis à jour.
C'est ça, en fait, c'est la loi.
C'est la loi sur les réserves, exactement.
Impose donc aux employeurs de libérer leurs collaborateurs salariés réservistes 8 jours, mais de plus en plus d'entreprises et également d'administrations signent des conventions de partenariat avec la Garde nationale pour notamment augmenter son nombre de jours. Donc, en fait, permettre à leurs collaborateurs de dépasser ce seuil de 8 jours. Et donc, dans le cadre de la préfecture de police, apparemment, donc c'est une trentaine de jours, donc c'est plutôt pas mal.
Trentaine de jours.
On est plutôt bien. Dans le cadre de la structure Marie ?
Oui, donc moi, je vais compléter. Donc, L'Oréal aussi fait partie des entreprises qui a signé la convention de la Garde nationale. Donc, du coup, on va au-delà des 8 jours qui sont légalement autorisés. Chez L'Oréal, c'est 15 jours ouvrés. Donc, ça me permet de faire 3 semaines de réserve, donc ce qui est bien. Personnellement, en termes d'engagement, moi, j'ai prévu de faire aujourd'hui entre 30 et 40 jours de réserve par an. Donc, ça revient à peu près à une journée par semaine en dehors des congés payés. Pour les jours qui dépassent les 15 jours ouvrés qui sont autorisés par mon employeur et sur lesquels il vient faire un complément de salaire sur la solde militaire, bah après, on est sur du congé sans solde ou alors je pose des congés payés pour pouvoir réaliser mes journées de réserve. Mais j'estime que le package est plutôt confortable. Il y a vraiment 15 jours ouvrés sur lesquels j'ai pas de perte de revenus. Donc je trouve que c'est plutôt...
Donc, tous les deux, plutôt voilà une trentaine de jours par an. Alors, c'est 30 jours d'un coup ou c'est dans l'année ? Donc, à ce moment-là, c'est quoi ? C'est 2 jours, 3 jours, par exemple, sur un week-end ? Ou c'est plutôt des périodes d'une semaine ? Comment ça se passe ?
Alors, pour le coup, ça va dépendre des besoins de l'unité sur laquelle vous êtes affecté. Me concernant, donc étant au CIRA, donc je gère un peu mes jours un peu comme je le souhaite. Le plus important, c'est que le travail au niveau du recrutement soit effectué. Après, en fonction des unités, vous avez des renforts qui sont de une semaine, deux semaines, trois semaines. Et parfois, vous avez des renforts ponctuels, des renforts ponctuels de un jour, deux jours, en fonction des besoins de l'unité. Et lieutenant, vous parliez de congés sans solde. Donc, j'aimerais évoquer aussi la rémunération des militaires réservistes, puisque bon, on est à peu près à 50 euros par jour pour les militaires du rang et les sous-officiers. Pour les lieutenants, il me semble que c'est 57, c'est ça ?
Très exactement.
Ouais, en tant que lieutenant,
sous-lieutenant.
Ouais. Sous-lieutenant. Puis voilà, donc après.
Après, en fonction du grade.
En fonction du grade,
ça monte. Globalement, on dit que la moyenne de la rémunération, tout grade confondu, elle est basée sur 117 euros par jour. Ça veut dire que. Il y en a au-dessus, il y en a en dessous, c'est un peu ça.
Après, j'aimerais, excusez-moi mon général.
Vas-y.
Oui. J'aimerais aussi insister sur le fait que la rémunération, c'est très bien, sauf que vous avez aussi une envie de servir qui est là, parce que intégrer la réserve opérationnelle, c'est pas juste avoir un petit complément de revenus, c'est aussi servir la France et le pays. Me concernant, c'est pour cela que je me suis engagé. Donc oui, là, le complément de rémunération, c'est très bien. Mais ce qui est le plus important, je pense, c'est l'envie de servir, tout simplement.
C'est pour ça que je parlais d'envie, ceux qui ont envie de nous rejoindre. Ce qui est intéressant pour revenir sur l'ordre de témoignage, c'est de montrer, on disait qu'on a différents profils de réservistes, des jeunes, des moins jeunes. On a différentes manières de servir en spécialité, en unité, etc. Et on a aussi différents profils temporels. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des réservistes qui viennent, comme Marie l'expliquait, un jour par semaine. D'autres qui vont venir sur des missions ponctuelles parce que ça correspond à une disponibilité et qui vont venir remplacer des gens d'actifs qui sont absents un mois en été ou 15 jours en été, peu importe. Je veux dire, il y a toujours moyen de trouver une solution pour s'accorder entre l'unité et le réserviste en fonction de ses disponibilités, des besoins. Le principal, c'est d'avoir un dialogue. C'est d'anticiper, d'avoir un dialogue, c'est de bien poser les choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir de tabou. Et c'est couper la tête aux mauvaises idées de dire « je ne peux pas être réserviste parce que je n'ai pas ci, parce que je n'ai pas là ». On va toujours trouver une solution parce qu'on est dans l'intelligence de situation. Voilà.
Pour répondre plus précisément à Johan, grosso modo, on va dire que du côté, en tout cas de l'institution, du côté des unités, on essaie de donner le maximum de visibilité sur les missions et sur les périodes où, exactement, effectivement, on pourrait servir. Et puis, du côté du réserviste, bah, c'est aussi donner à son employeur également les indisponibilités, en tout cas les semaines ou les jours souhaités pendant l'année. Est-ce que vous y arrivez d'ailleurs tous les deux ?
Alors oui, moi c'est quelque chose que j'anticipe, enfin que j'ai beaucoup anticipé au moment où j'ai mis en place la réserve opérationnelle, parce que mon entreprise n'était pas très rompue à l'exercice. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, ils ne connaissaient pas bien le fonctionnement, donc j'ai bien expliqué comment ça fonctionnait, quel était le niveau d'engagement que je voulais prendre vis-à-vis de l'armée de l'air. Et puis voilà, après je fais des demandes d'absence à intervalles réguliers, je donne de la visibilité suffisamment en amont pour expliquer que je serai absente ces journées-là. Pour ma part, j'ai donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt programmé un engagement, on va dire, régulier, parce que je trouve qu'aussi au regard des fonctions occupées au sein de l'état-major, bah, voilà, ça s'exprime bien parce que la gestion de projet impose et implique d'avoir un suivi régulier. Bien évidemment, on peut aussi avoir des engagements plus spotés où on vient une semaine, deux semaines. C'est des choses qu'il faut vraiment gérer avec son entreprise et avec l'armée de l'air. Personnellement, je trouve que ça se fait en bonne intelligence aussi bien d'un côté que de l'autre. Il y a de la souplesse et de la compréhension en fait sur l'engagement. Parce qu'aussi, je pense qu'aussi bien l'armée de l'air que l'entreprise comprennent que c'est un échange de bons procédés et un échange de compétences et d'expertise mutuelles. On va apporter ses compétences civiles dans le milieu militaire, mais aussi le milieu militaire va nous apprendre, nous apporter des nouvelles compétences, une nouvelle expertise qu'on pourra aussi mettre en œuvre dans le civil. Donc je trouve que voilà, il y a cette notion d'échange et de... Voilà, moi, je ne pourrais que conseiller de bien anticiper et expliquer à vos entreprises, si elles ne sont pas dans le milieu de la défense ou dans le milieu de l'aéronautique, entreprises qui ont en général beaucoup de réservistes, de bien expliquer comment ça marche, de bien anticiper, de bien prévenir quand vous devez vous absenter. Et normalement, j'ai envie de dire, ça se fait bien.
Vous avez aussi des postes de réservistes, je pense, c'est un des domaines où on emploie beaucoup de réservistes si on a des besoins, c'est tout ce qui est protection-défense.
Donc c'est 7 jours sur 7. Donc si votre disponibilité est plutôt les week-ends, parce que par rapport à votre emploi, etc., ben, globalement, c'est fait pour vous. Et on sera ravis de vous accueillir pour des missions le samedi, le dimanche, les jours fériés, etc. Donc il y a toujours une solution finalement, hein, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, comment je peux m'articuler, comment je peux m'organiser. Et puis voilà.
On va dire que c'est flexible.
C'est
relativement flexible. Ça dépend de la mission, de l'unité.
De plein de choses, de ce que j'ai envie de faire. Et puis, on peut être dans une unité pendant quelques années et puis pouvoir changer, progresser,
évoluer.
Les choses ne sont pas figées.
On a une question de Florian qui nous demande donc, quel est le temps moyen d'attente entre le moment où on dépose sa candidature sur ROC on va dire la prise en compte de cette candidature spontanée. Je pense notamment dans le cas de Florian qu'il aimerait bien pouvoir faire sa SMIR cet été, sachant qu'on est donc mi-mai. Est-ce que si maintenant il envoie sa candidature sur ROC, il pourrait potentiellement faire sa SMIR cet été?
Il pourrait. Sauf si l'endroit où il postule, où on va monter les SMIR, ne sont pas déjà complets. La logique cette année, c'est 800 SMIR sur le théâtre. Sur le territoire national, le territoire national, 800 SMIR, donc on a un objectif assez ambitieux. Donc je ne suis pas plugué avec tous les SIRA. Oui, tous les SIRA, on a un SIRA sur chaque base.
Voilà, donc en gros, on prend toutes les bases aériennes en France,
oui.
Et il y a à peu près
800 places offertes.
Très bien. Donc c'est le moment, j'ai envie de dire, c'est le moment.
Ben, Karim va pouvoir nous dire Villacoublay, par exemple.
Pour Villacoublay, alors cette année, c'est trop tard, puisqu'on a déjà engagé les PMI qui vont faire l'AFMIR cet été. Globalement, sur Villacoublay, puisque je vais parler de ce que je connais, généralement, on commence la campagne de recrutement au mois de septembre pour une FMIR l'année d'après. Donc, vous pouvez postuler de septembre à février, mars, quasiment. Sur les autres bases aériennes, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que globalement, ça va dépendre des bases aériennes. Vous avez des FMIR qui vont se passer en fin d'année, d'autres durant l'été, d'autres en début d'année. Donc, je ne peux que conseiller à ceux qui sont intéressés d'aller regarder sur ROC, justement, les postes offerts, puisque les bases aériennes et les SIRA mettent justement en ligne les offres de FMIR.
Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. C'est allez-y. Effectivement, si Florian, votre projet, c'était peut-être de faire une SMIR cet été, bon,
à voir. On essaye aussi de monter en gamme et en catalogue plus large sur des PMI, aujourd'hui, c'est des PMI plutôt centrés sur une semaine. On essaye de voir pour l'année prochaine sur quelques bases de pouvoir en proposer sur des samedis après-midi tous les 15 jours, donc du perlé, etc., pour pouvoir offrir plus de prestations et des prestations différentes en fonction des disponibilités de chacun. On est en train de monter en puissance hein, sur l'éventail des possibilités, de faire aussi des FMIR. On est en train de mettre en place des régionalisations de base mère et de base fille pour pouvoir avoir une formation labellisée. Et puis tout ça pour que nos réservistes soient les plus intégrés possibles parce que avec une formation... à la fois modulaire, mais à la fois identique, quel que soit l'endroit où elle est faite.
Bref, Florian, et puis tous ceux qui
Moi, je
qui
pense qu'il ne faut pas réfléchir. Et puis, si on ne peut pas vous prendre tout de suite, on vous prendra le coup d'après.
Voilà. C'est ça.
Alors, venez.
Je vous rappelle que le sergent Karim, c'est un réserviste qui recrute des réservistes. Hein, donc,
exactement.
Donc, il sait de quoi il parle.
C'est ça,
je les reçois du début du processus de recrutement sur ROC jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est assez valorisant de voir le dossier commencer au début et de voir ensuite les réservistes qu'on a recrutés chez nous à la fin, lorsqu'ils reçoivent justement leur attestation à la fin de leur formation.
Alors, on a des questions un peu du tac au tac. On a Clément qui nous dit, c'est pour vous ça, mon général, peut-être une colle. Est-ce qu'on peut être réserviste dans la restauration?
Bien sûr. J'ai dit, il n'y a pas de spécialité non atteignable par un réserviste. Donc, bien sûr, dans la restauration, il y a de la place.
Est-ce qu'on peut être réserviste médecin réserviste dans l'armée de l'air où il faut obligatoirement passer par le service de santé des armées?
Ah oui. Il y a médecin, c'est service de santé des armées.
Voilà.
Donc, mais s'il y a un médecin là qui veut être réserviste, qu'il n'hésite pas à lever la main et à contacter le service de santé via ROC parce qu'ils seront ravis de l'accueillir.
Donc effectivement, quand on est médecin et quand on va être réserviste, bah, il faut passer par le service de santé Exactement. Des armées qui Exactement. Est interarmée en fait, c'est ça le.
Qui est le service qui est
commun à toutes les armées.
Exactement, au profit des autres armées, directions et services.
On a Quentin qui nous demande, est-ce que, en tant que photographe dans le civil, je peux rejoindre le pôle communication image de l'armée de l'air et de l'espace en tant que réserviste?
Bien sûr aussi. Il peut, et je pense qu'il y aura de la place aussi. Voir des missions, après, c'est l'unité qui traite, mais il n'y a pas de spécialité et il n'y a pas d'unité fermée.
On a Cyr qui nous demande, est-ce que je peux postuler à 40 ans révolus? Oui. Dans la réserve de l'armée de l'air
et l'espace. Bon. Oui, je vous ai dit, hein, il y a des recrutements ab initio avec une limite d'âge, et puis il y a ces recrutements spécialistes dont j'ai parlé, hein, qui peuvent se pluguer à différents grades, que ce soit sous-officier ou officier, et donc qui sont ouverts sur des profils plus âgés, donc au-delà de 40 ans. Le ministre, il n'y a pas si longtemps, a annoncé une limite d'âge à servir dans la réserve à 70 ans. Donc, ça nous laisse une marge pour pouvoir envisager votre recrutement. Après, on verra aussi avec vous si vous avez toutes les compétences pour pouvoir nous rejoindre.
Alors, une question de Lucas. Donc, est-ce que pendant une mission de réserve, on est hébergé?
Alors, pour ma part, donc non, puisque donc moi je travaille à l'état-major sur Paris et j'habite en région parisienne. Donc la situation ne se pose pas. Après, on est en partie défrayé sur la partie des repas qu'on va prendre sur l'emprise. Alors après, sur les bases aériennes, je sais que ça fonctionne un petit peu différemment. Mais donc voilà, pour ma part, je suis pas concernée. Je sais pas si sergent.
Alors ça va dépendre des unités. Vous savez, certaines unités qui proposent de l'hébergement, mais c'est en fonction des missions qui sont proposées par l'unité aux réservistes. Globalement, en tout cas sur Villacoublay, on propose pas d'hébergement pour les réservistes pour le moment, sauf pendant les formations militaires, bien sûr. Mais vous avez certaines unités quand même qui proposent à certains de nos réservistes quand ils sont dans leurs unités pour faire les missions d'être hébergés sur
et
base.
Et puis il y a des missions qui, bah, par définition en fait,
exactement.
On parle de vigipirate. Bon, mais quand on fait vigipirate,
exactement. Il y a la mission. Si je pars en mission parce que je quitte mon unité parce que je vais avec elle sur une projection intérieure, etc. Parce que je pars quelques jours et donc là il y a l'hébergement qui est inclus. Sur les bases aériennes, ça va dépendre des capacités d'hébergement et d'accueil. On essaye, dans la mesure du possible et le plus souvent possible, de pouvoir accueillir les réservistes lorsqu'ils vont faire plusieurs jours et de pouvoir les loger sur
bon, bah, très clair.
Sur site. Après, quand c'est un réserviste qui vient qu'à la journée et qui habite à proximité,
oui, comme le cas de
Marie, voilà, c'est différent.
On a Marianne qui nous demandait, mais comment on fait pour signer une convention avec son employeur? Marianne, contactez la Garde nationale. Contactez-nous, contactez la Garde nationale donc sur notre site. On sera ravis de vous accompagner pour aider, hein, en tout cas sensibiliser votre employeur à l'intérêt qu'il aurait en tout cas de signer cette convention de partenariat. Vous êtes contacté, vous d'ailleurs, par des entreprises qui se disent, tiens, moi, j'aimerais soutenir moi aussi la réserve, comment faire?
Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas été, mais je pense que ça peut le devenir. En revanche, j'ai contacté la Garde nationale pour pouvoir établir une convention parce qu'on est intéressé avec une entreprise, je ne vais pas citer le nom, mais parce qu'il y a des profils chez eux qui nous intéressent en tant que réservistes. Et donc l'idée, c'est d'essayer de signer cette convention avec eux pour pouvoir favoriser l'intégration de leur personnel et de leurs compétences au sein de la réserve de l'armée de l'air et de l'espace.
On a Virginie qui donc témoigne, qui nous dit bon, j'ai effectué au mois d'avril une PMI-PDN. On rappelle ce que c'est la PMI-PDN?
C'est une préparation militaire initiale et une préparation militaire de perfectionnement qui est un préalable. Hein. Je vous ai dit, ces modules pour arriver à la formation militaire initiale du réserviste.
Donc, elle nous dit d'ailleurs, donc j'ai fait cette PMI-PDN dans le but de devenir réserviste. Mmh. J'ai 31 ans et j'étais de loin la plus âgée et même la plus âgée qu'ils aient eue. Est-ce si rare? Est-ce que 31 ans, c'est
oui,
âgé
ça, pour ça être... commence, je pense qu'il pourra, sergent Karim pourra répondre pour Villacoublay, mais si je fais un point, oui, ça commence à être un petit peu âgé sur les formations militaires initiales. Mais pas sur les formations militaires initiales de réservistes de haut niveau, comme l'expliquait le sous-lieutenant Marie, puisque là, on est sur une cible 27-40 ans.
D'accord.
Mais je pense qu'on va évoluer et que 31 ans, c'est jeune.
Alors, c'est jeune, Virginie. Alors, Virginie, d'ailleurs, j'espère que vous êtes encore avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat comment ça s'est passé? Parce que là, vous nous demandez si c'est rare, mais alors comment s'est passée cette PMI où finalement vous étiez, bon, bah.
C'était sur quelle base?
Voilà, elle était la senior de la PMI.
La je pense pas, puisque ça me dit absolument rien. Mais, pour répondre à sa question, jusqu'à 40 ans, en tout cas sur Villacoublay, on recrute des réservistes. Donc, le plus âgé de cette année, je crois qu'il doit avoir 39 ans, 40 ans bientôt. Donc, non, enfin, il y a toujours possibilité de devenir réserviste, même à 38, 39 ans. En tout cas, pour l'avenir classique.
Merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de ce direct. On va continuer le tac au tac pour répondre à toutes les questions. Quel est le nombre de jours maximum par an qu'il est possible de faire?
Alors, réglementairement, la loi impose un maximum de 210 jours.
Sachant qu'il y a 365 jours dans l'année, on est quand même pas mal à 210 jours.
On est pas mal. Alors, dans quelle catégorie de mission on peut atteindre, j'allais dire, ou approcher cette limite? Une projection en OPEX, en opération extérieure, par exemple? C'est 30 jours par mois déjà, donc vous partez potentiellement aller jusqu'à 6 mois, on va dire, ça fait 180 jours. Plus vous bénéficiez de 4 jours de récupération de congés par mois effectués, donc sur 6 mois 24, on est déjà 180 plus 24 à 204 jours. Donc vous voyez là, on frôle la limite. Après, ça peut être des missions d'intérêt nationaux. On a quelquefois des besoins sur des compétences très particulières. Et on est amené à avoir des réservistes parfois. Alors, pour être raisonnable, c'est souvent d'anciens militaires qui, au vu des compétences qu'ils détiennent, sont amenés à faire jusqu'à 150 jours, etc. C'est pour ça qu'on a une vraie modularité.
200 jours, c'est quand même assez rare. Non, on est quasiment sur un temps plein. Donc.
Ça reste rare parce que c'est vraiment par rapport à des missions très ponctuelles et très particulières.
Mais sur la trentaine de jours qui est votre moyenne, on
généralement, c'est entre 25 et 30 jours. Alors moi, cette année, je vais en faire un peu plus. Ce sera plutôt 60-90. Mais globalement, c'est plutôt 25 à 30 jours. C'est ce dont on a besoin généralement, en tout cas.
Merci. On a de nouveau Constantin qui nous dit « Mais attendez, mais il n'y a qu'une seule FMIR par an ?»
Oui. Plus j'aurai de réservistes dans les SIRAE et plus je pourrai faire des FMIR. C'est le cercle vertueux de l'encadrement et de la formation vers les plus jeunes. Donc, la montée en puissance de la réserve va nous permettre d'améliorer le catalogue des propositions puisqu'on aura plus de réservistes pour pouvoir transmettre demain.
Donc, aujourd'hui, la FMIR, c'est l'été.
Plutôt l'été ou les vacances de printemps, mais c'est plutôt sur ces périodes-là, effectivement.
On a ensuite Lucas, donc toujours sur l'hébergement, qui nous dit, mais on est bien d'accord que l'hébergement dont on parle, notamment Vigipirate, c'est un hébergement qui est gratuit. Oui, le réserviste ne paye pas son hébergement.
Exactement.
C'est pris en charge en dehors de la solde. Hein.
Exactement.
Voilà, il n'y a pas de
hébergement sur la solde. Sur les bases aériennes, pour ceux et celles qui pourraient bénéficier d'un hébergement, l'hébergement est gratuit, il participe à ce qu'on appelle le blanchissage de les draps, etc. Donc, il y a un forfait qui est payé sur la semaine lorsqu'ils viennent sur une semaine de convocation.
Et lorsque vous faites des gardes, par exemple, à l'escadron de protection d'une base aérienne, vous êtes hébergé à l'escadron de protection, forcément. Vous n'allez pas rentrer chez vous pour aller refaire la garde le lendemain.
Oui, c'est ça. On ne va pas payer la chambre sur la base aérienne. On a également Benoît qui nous dit... Attention,
je suis prêt.
Quand on possède des diplômes dans les arts martiaux, peut-on devenir moniteur des TIOR? Donc ces fameux TIOR, on rappelle ce que c'est?
Oui.
Technique d'intervention opérationnelle rapprochée.
Ah, moi, je vais pas les coincer aujourd'hui. Hein. En tant que réserviste, donc est-ce que Benoît, il a des diplômes dans les arts martiaux, est-ce qu'il pourrait devenir moniteur TIOR en tant que réserviste?
Ah, c'est là, on rentre dans le détail. De prime abord, je suis pas sûr, comme ça, qu'il y ait les mêmes équivalences, parce que entre moniteur d'arts martiaux et moniteur tueur, il y a quand même des différences. On est sur de l'opérationnel et du combat. Donc, il y a forcément des basiques qu'il détiendra, mais il y a des choses complémentaires. Mais pourquoi pas l'imaginer rejoindre en tant que réserviste une unité sport sur une base aérienne, etc., pour amener des compétences dans les domaines sur lesquels il exerce.
Allez, on prend les dernières questions. On a Carlito qui nous dit « Est-ce qu'à 35 ans, on peut servir à quelque chose dans la réserve? Ne va-t-on pas être regardé comme une bête étrange ?» Je pense qu'on peut lui dire à l'unisson « Non ».
Ouais, je crois que... On est jeune à 35 ans. On est hyper jeune, je sais pas, mais...
Et si je peux me permettre de témoigner, j'en ai 38. J'ai fait ma FMIR à Chêne à 37 ans. Alors oui, c'est sûr que quand on fait la FMIR à chaîne en même temps que les FMIR qui ont 17-18 ans, bah, c'est vrai que oui, on prend un petit coup de vieux, on va pas se mentir. Mais après, ça se passe très bien. Et puis, on a, j'ai envie de dire, une expérience à offrir. On a du recul, on a déjà quelques années parfois d'expérience dans la vie professionnelle civile. J'ai envie de dire au contraire, faut postuler quand on a déjà quelques années de bouteille. C'est...
Il y a de la place pour toutes et tous. C'est ce que j'ai dit depuis le début et c'est ce que j'essaye de répéter. Tous les profils sont intéressants. On a toujours quelque chose à amener. La jeunesse, son expérience, les deux. Donc, forcément, il y a de la place pour toutes et tous.
Bon, et 35 ans, on vous confirme que c'est jeune.
Ouais, je suis d'accord.
On le dit très bien.
Je suis d'accord.
Et d'ailleurs, mon général, ce qui est intéressant, en tout cas, dans les FMIR, c'est que vous avez des profils très hétérogènes. Donc, ça va de 17 ans à 40 ans, donc c'est très enrichissant et pour les uns et pour les autres,
ça se passe bien.
D'avoir ce type
c'est
de
ça,
profil.
Ça, on peut dire, ça se passe bien. Ça vous l'avez vécu vous-même dans vos promotions.
J'ai l'habitude dans le recrutement de comparer l'armée de l'air à une équipe de rugby, c'est-à-dire que tout le monde a sa place.
Ça dépend de quel club de rugby. Hein.
C'est exactement la même
chose. Toulouse, hein, moi,
non, mais là, non, on peut pas parler. Là. Je suis plutôt toulonnais, même plutôt fort toulonnais. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Je répète, hein, ce qui est important, c'est avoir envie, avoir un peu de disponibilité. Comme on dit, on a parlé de 210 jours, mais je ne cherche pas des profils à 210 jours. Une dizaine de jours déjà dans l'année, c'est un jour par mois, ou c'est une semaine ou deux semaines à consacrer. C'est déjà une bonne chose, ça permet de rentrer dans le cycle d'une formation militaire initiale du réserviste, et puis après de pouvoir servir... Je vous disais, en unité de protection, par exemple, et de venir 5 week-ends de 2 jours servir, et ben c'est 10 jours qui serviront à l'institution. Voilà.
On a Clémente donc, qui nous posait la question sur réserviste dans la restauration, qui nous dit « J'ai activé mon compte ROC pour un poste sur Villa Coublay. J'ai 30 jours pour valider ma garnison, mais j'ai des difficultés pour valider cette demande. » Donc peut-être que ce qu'on peut lui dire, c'est...
D'attendre, on reviendra vers elle dès que possible. Alors, je ne sais pas où elle est exactement sur ROC, puisque vous avez normalement la visite médicale chez le médecin civil à effectuer. Donc, je pense qu'elle doit être là.
Alors, je crois que c'est Il, Clémente.
Il, Clémente.
Oui, alors je ne sais pas si c'est un pseudonyme ou son nom. Pardon, Clément. Donc, peut-être, est-ce qu'il a la possibilité de renvoyer un message? Parce que je crois qu'il a des difficultés pour valider... C'est possible?
Oui, bien sûr. Alors, sur Villa Coublay, en tout cas, nous, on a mis des informations avec nos adresses mail. Donc, ils peuvent, bien entendu, nous envoyer un mail. Okay. On les répondra dès que possible.
Johan, qui nous parle de réservistes de haut niveau, comment se font les candidatures? Donc ça, peut-être, sous-lieutenant Marie, donc rappelez comment vous avez candidaté.
Alors, moi, j'ai fait, on va dire, le parcours complet. Donc, je suis allée sur Internet, sur le site de la Garde nationale. Ça m'a redirigée donc, vers le site ROC. Et c'est là que j'ai pu déposer ma candidature. Et gardez en tête que vos candidatures, quand vous les déposez sur ROC, elles partent pas dans les limbes du site Internet. Il y a des gens derrière pour les traiter. Ma demande, elle a été prise en charge. On m'a contactée. J'ai ensuite pu déposer un CV. Une personne du CIRA a étudié mon CV et s'est rendu compte que voilà, il y avait des opportunités en unité qui pouvaient correspondre à mes compétences. Et c'est comme ça que ça s'est enclenché. J'ai envie de dire, ça, c'est le process le plus classique. Et puis après, j'ai eu des gens de ma promotion qui sont rentrés par des biais complètement différents parce qu'ils avaient des connaissances dans le milieu militaire. Tenter le coup par ROC, ça marche. J'en suis la preuve vivante. Donc voilà, après, si vous avez d'autres contacts par ailleurs, vous pouvez aussi les activer.
Exactement.
Tous les chemins sont bons et tous les chemins mènent à ROC.
Exactement. Voilà. Alors, on est en train aussi aujourd'hui de centraliser le recrutement des FMIR au niveau du bureau réserve et garde nationale, donc un bureau qui est à la sous-direction recrutement réserve jeunesse, parce qu'on est sur deux promos par an, hein, deux promos sur Bordeaux, une en octobre, une en avril, pour faire simple. Donc on sélectionne les candidatures.
Ça, c'est haut niveau, on parle.
Oui, oui, les FMIR haut niveau. Hein. On sélectionne les candidatures et on met en lien avec les employeurs, parce que l'intérêt, c'est d'avoir un candidat et d'avoir un emploi, de manière à faire matcher les deux. Et donc, après, on sélectionne en fonction des différents profils et des disponibilités. quelle période, etc. Donc, on est en train, j'allais dire, de s'améliorer nettement sur ces recrutements-là. Et pareil pour le FMIR normal. On est en train, comme je vous disais, un gros travail sur ROC de le faire progresser de manière à ce qui est toutes les fiches d'emploi, d'ouvrir le catalogue pour tous ceux qui vont rentrer sur ROC et qui puissent avoir ces informations-là sur la réserve, sur les possibilités offertes, etc. et rentrer en contact avec nous s'ils ont besoin de renseignements complémentaires avant de faire leur choix.
Donc, on va peut-être le dire une dernière fois. Donc, tous les chemins mènent à ROC. ROC pour réserviste opérationnel connecté. Donc, qui est la plateforme d'accueil. Donc pour devenir réserviste de l'armée de l'air et de l'espace.
Et qui est un système d'information qui est aujourd'hui en train de progresser et de prendre un dimensionnement plus important pour être vraiment une fenêtre intéressante ouverte sur le monde extérieur et sur les réservistes ou les réservistes en devenir.
Avant de vous remercier et de conclure, on va parler donc de la fin d'expérience de Virginie. Donc souvenez-vous, donc cette réserviste qui, enfin pas encore réserviste parce qu'elle était dans sa préparation militaire, donc à 31 ans, elle était la plus âgée de sa promo. Donc on lui a demandé mais comment ça s'est passé. Elle nous dit donc c'était un détachement de Lyon-Montverdun à Clermont-Ferrand.
Exactement.
L'intégration s'est très bien passée avec mon groupe très jeune, moyenne de 16-22 ans. Côté sportif un peu plus dur. J'ai joué le jeu à fond et l'équipe d'instruction a été top. Je fais l'AFMIR cet été, sinon je suis dans la banque depuis 10 ans. Bravo Virginie.
Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est finir sur ce témoignage est particulièrement intéressant, ce qui montre bien, sans avoir, préparé à Virginie, que tout ce qu'on a dit depuis le début est en place et qu'il y a vraiment de la place pour toutes et tous.
Parfait. Encore un grand merci à tous les trois, bien sûr mon général, mais d'être venu accompagner de ces deux réservistes donc qui ont montré. Alors, il y a bien sûr pas que ces profils-là, mais on a eu quand même deux beaux exemples de réservistes dans l'armée de l'air et de l'espace. Merci à tous les deux. Sous le tenant Marie, on peut voir donc vous attendez un heureux événement. Donc voilà, c'est aussi ça. Hein, c'est la vie, c'est beau. Donc merci d'avoir fait l'effort de venir. Et puis Sergent Karim, on espère que vous aurez plein de candidats à Villacoublay. Exactement.
Donc, j'espère que les candidats de cette année vont réussir sur l'AFMIR aussi.
Bon, c'est ça. De... Allez, un mot de la fin pour chacun. Donc, Sergent Karim.
Engagez-vous.
Très bien.
Engagez-vous, c'est beau. Et puis, ça vous apporte de l'expérience. Ça apporte aussi quelque chose en plus à l'institution. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire, vraiment.
Voilà, j'ai envie de dire engagez-vous aussi. Si vous avez vraiment, venez avec l'envie. Et tout sera possible, j'ai envie de dire, les portes sont ouvertes. On l'a dit tout à l'heure, mon général, vous l'avez dit, il y a des opportunités dans tous les corps de métier. Rien n'est fermé. Donc allez-y, si vous avez envie, si vous êtes motivé, si voilà, vous êtes mu par les valeurs de la République et les valeurs de l'armée de l'air, bah, engagez-vous, voilà.
Mon général ?
Moi, je vais vous dire, un réserviste, c'est un militaire à temps partiel. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est quelqu'un qui est intégré au sein de l'armée de l'air et de l'espace, qui participe à ces missions. On a besoin de vous. Donc, on est ravis de pouvoir vous accueillir. On est ravis de mettre en place des process qui vont s'améliorer dans les années à venir pour vous permettre d'avoir des parcours intéressants, de vous éclater. J'ai eu la chance, moi, de rejoindre l'armée de l'air par le biais du service national. Donc, des parcours qui n'étaient pas au départ prévus pour être militaire d'active. Je pense que au sein de la réserve, pour les plus jeunes qui vont venir nous rejoindre, pourquoi pas, par ce biais-là, avoir envie de s'engager et de faire carrière. Donc, suivez vos instincts et venez. Il y a de la place pour toutes et tous, comme je l'ai expliqué. Et puis après, chacun prend son destin en main.
Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour vos questions dans le chat. Merci également à ceux qui ont répondu aux questions dans le chat. C'était très apprécié. Il y a toujours beaucoup d'activités dans ce chat. On vous donne rendez-vous pour un prochain direct Garde Nationale dont on ne connaît pas encore le thème, mais ce sera la surprise. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux. On vous annoncera donc le futur thème. Et puis restez encore connectés quelques minutes parce que on a une vidéo qui va venir conclure donc ce direct avec un témoignage d'une réserviste qui s'appelle Emma. On ne vous en dit pas plus, mais vous allez voir, ça envoie quand même du lourd. Merci à tous.